Quotidien avec Hélène Denis.
Juin 2025. Beau et bon mercredi à tous et à toutes. Bienvenue au quotidien à l'antenne de Canal M, la radio de Visez-vous, à la voix de l'inclusion. Mathieu Tessier, êtes-vous d'accord avec ça?
Absolument.
Serge Bradet en studio.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Serge. Votre menu du jour, votre sujet, quel est-il?
On parle des foires de fourrures qui avaient lieu en Nouvelle-France dès le 17e siècle.
Ben oui, au 17e siècle, il n'y a pas de téléphone qui sonnait, par exemple.
Non.
Et Daniel Lachance est au bout du fil,
bonjour.
Parlant de téléphone. Bonjour.
Oui.
Vous soulignez aujourd'hui le 50e anniversaire d'un album.
Oui, un album du groupe Eagles que vous connaissez probablement.
Mais non, on ne connaît pas ça du tout, les Eagles.
Connaissez pas,
non.
Hein?
Hôtel California, avouer... ça nous dit rien.
Oui, 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 mais je dois avouer au départ que je n'ai jamais vraiment été un fan de
Eagles. Ah non?
Mais ils ont quand même fait des choses très intéressantes,
oui.
Je dois l'admettre. Alors, on parle aujourd'hui d'un album qui a eu 50 ans hier, qui est sorti le 10 juin 1975.
Un anniversaire tout frais. Oui, ça passe très vite. Merci beaucoup, Daniel, à tantôt. Il y aura également une entrevue avec le directeur de la programmation des Franco de Montréal, Morin Oxemery, qui sera avec nous. Sarah Rouleau nous parlera de la programmation jeunesse de l'été 2025 à INCA, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à changer ce que signifie être aveugle dans la société d'aujourd'hui. Alors, un beau mercredi qu'on commence avec une reprise à la manière d'un bon entendeur, un succès de Nino Ferrer.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour. Et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire. Thank you.
Bon entendeur, Nino Ferrer, la rue La Rua Madureira.
La Rua Madureira.
Oui, merci, mon portugais au monde.
Quelle belle chanson! Bien arrangée, hein? Ils ont du talent, cette troupe qui se cache derrière Bon entendeur. À la une de la Presse Plus, une histoire vraiment pas drôle, une histoire où la mauvaise communication et la grande malchance se sont rencontrées. C'est une chronique d'Isabelle Haché. On voit Lorraine Vallée et Monique Côté, respectivement la sœur et la femme du défunt. Le défunt, c'est Benoît Vallée, 67 ans, laissé à la porte du système de santé quand Benoît Vallée a appris qu'il était atteint d'un cancer avancé. Il était trop tard, raconte sa femme et sa sœur. C'est l'histoire d'un mort, d'une mort qui jette une lumière crue sur les ratés du système de santé, souligne Isabelle Haché. Une histoire ici beaucoup plus réjouissante, recrue de l'année dans la LNH, un grand honneur, Lane Hudson a confondu tous les sceptiques. Simon-Olivier Lorange, qui écrit « Il y a un an, nombreux étaient ceux qui se demandaient comment un si petit défenseur saurait s'adapter à la LNH. Or, Lane Hudson ne s'est pas contenté de confondre les sceptiques, il leur en a mis plein la vue après avoir amassé 66 points en 82 matchs à sa première saison complète. » L'Américain a reçu le trophée Calder, remis à la recrue par excellence du circuit. 50-quelques années après que le très bon gardien de but, Ken Dryden, l'ait reçu ce prix, ce trophée Calder. Également à la une de la Presse Plus, bientôt une tour près de chez vous. Montréal ouvre grand les bras à des projets plus hauts et plus denses que jamais. Et Hugo Dumas revient sur la finale des chefs. Je ne sais pas si vous avez suivi ça hier. Moi, oui. Non. C'était absolument passionnant. Vous allez pouvoir le retrouver, cet épisode, sur tout.tv. Alors, je ne veux pas non plus divulgâcher. Mais
aussi, je pense... Le samedi ou le dimanche.
Là. Ah, je ne sais pas.
Ouais, ouais,
oui.
Ouais.
Alors, apportez votre vin chez le gagnant. Ça s'en dit un peu parce que le gagnant, il y avait trois finalistes, une femme et deux hommes. Ah. Et oui, c'est un gagnant. Alors là, j'en ai dit un peu. Et il a un restaurant. Apportez votre vin dans le quartier Villeray. J'imagine qu'il y a déjà des réservations pour plusieurs mois déjà. Ça, c'est pour la une, les unes à la presse, à la une de la, les titres à la une de la presse d'aujourd'hui. Les titres à la une du Devoir du 11 juin. Les poubelles remplies de matières recyclables ou compostables, la quantité d'ordures par habitant envoyée au dépotoir diminue, mais la cible de zéro déchet à Montréal reste lointaine. Un autre titre, la chute marquée du nombre d'étudiants étrangers inquiète. Les demandes d'admission d'étudiants internationaux ont chuté de 45,9% dans les universités québécoises, montre un rapport. Le nombre de demandes d'admission d'étudiants internationaux dans les universités québécoises a chuté de près de moitié en un an au Québec, une situation qui menace de nuire à la survie financière de plusieurs établissements, à la recherche scientifique. Donc, à la recherche scientifique, oui, et à la vitalité économique de plusieurs secteurs, montre une vaste étude obtenue par Le Devoir. Triste, tragique, l'Autriche sous le choc après une tuerie dans une école, une autre. Un ancien élève a tué par balle 10 personnes dans un établissement scolaire de Grasse en Autriche avant de se suicider. Un drame sans précédent dans le pays qui a décrété 3 jours de deuil national. Et Luc Poirier, du HLM au Ferrari, la nouvelle docu-série de Pierre-Yves McSween, Luc le milliardaire, point d'interrogation, lève le voile sur la réussite financière du multimillionnaire québécois. C'est Annabelle Caillou qui en parle. Et puis, à la une du Journal de Montréal, évidemment, on parle de la grève du transport. La grève du transport fait mal, trop cher pour aller travailler. On voit Angélès Delgado qui a payé 35 $ pour parcourir 2 stations après avoir manqué le dernier métro hier matin. Oui, il faut se rabattre sur soit la bicyclette Bixi quand on est capable d'en avoir une, sinon bien, des taxis. Il y a Uber qui fait beaucoup de fric de ces temps-ci. Et puis les autres taxis, j'imagine qu'ils en font également parce que, coudonc, il faut s'en aller chez nous après le travail ou il faut s'en aller de chez nous au travail. Mais,
est-ce que c'est encore la mode de faire le pouce?
Faire du pouce?
Oui, je sais pas. Hein.
On n'a pas entendu parler de ça dans les nouvelles.
J'en vois pas. Ben,
peut-être que ça va redevenir à la mode, mais il faut tellement être prudent par rapport à ça. On en faisait quand on était plus jeune, les années quoi, 80, même avant. Il y en a qui allaient sur le pouce très, très loin. Mais ce n'est pas tellement le cas. Mais peut-être qu'avec la grève, ça va revenir, on ne sait pas. Ce qui va revenir, c'est la chaleur. On subira 2 mois de canicule dans 75 ans. Très bonne nouvelle. Ici, c'est du sarcasme. Mathieu Robert Sauvé, dans le journal, qui dit que le Québec, qui écrit que le Québec se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, ce qui aura des conséquences sur la santé humaine et nos infrastructures, selon des experts du climat. Le Québec pourrait compter de 2 à 3 fois plus de décès annuellement et voir les factures d'entretien des infrastructures augmenter de 3 à 5 fois en raison du réchauffement climatique. Ce sont des scénarios qu'ont présentés hier matin des climatologues d'Ouranos, le groupe scientifique chargé d'étudier les effets des changements climatiques. À Montréal, on pourrait compter d'ici la fin du siècle jusqu'à 54 journées de canicule, plus de 30 degrés Celsius par été, comparativement à 12 jours entre 1991 et 2021. À Québec, où on observe uniquement 2 jours de grande chaleur par an, ce chiffre passerait à 26. Des villes comme Fermont, 2 jours, et Coudjouac, 1 journée tous les 2 ans, pourraient aussi voir le thermomètre dépasser les 30 degrés, ce qui est extrême aujourd'hui paraîtra normal demain, résume Simon Legault, un des auteurs du rapport rendu public hier. Il est inquiet de la situation si rien n'est fait pour freiner le réchauffement climatique.
Encore une nuit à me retourner aux quatre coins de ma tête en me disant que peut-être les pages blanches pourraient remplacer celles qu'on n'a pas tournées et qu'on va regretter. On se lance dans le vide, mais on ne s'y fait pas. La peur au cou, le cœur qui débat, et on se surprend à dire qu'on est heureux comme ça, à perdre des plumes et gagner des pattes d'oie. Sans trop savoir où aller, quelques mains où s'accrocher, que nous vaut une étoile si on doit rester seul à la contempler, le pied dans le sablier. On s'accroche à l'avenir, mais on ne s'y fait pas. Le rouge au joue, le cœur en éclat, et on se surprend à dire qu'on est heureux comme ça, à perdre des plumes et gagner des pattes d'oie.
Heureux comme ça, une chanson de Maude Audet.
Les filles sont belles, que Ils changent leur maîtresse au gué, ils changent leur maîtresse. Mais moi je ne changerai pas en montant la rivière. Mais moi je ne changerai pas car la mienne est trop belle. Car la mienne est trop belle au gué, car la mienne est trop belle. Elle a de beaux yeux.
Mettre dans l'ambiance de
oui,
la Nouvelle-France.
Ben oui, des années 1600, fin des années 1600. Alors, c'est un article qui était dans la presse de dimanche, la Presse Plus, un article de Tristan Péloquin qui s'intitule « Fenêtre sur la Nouvelle-France, une dernière fouille avant les pelles mécaniques ». Alors, il nous parle des foires de fourrures qui existaient à ce moment-là et qui étaient extrêmement populaires, comme on va le voir. Armée de truelles et de patience, une petite équipe d'archéologues s'affaire à exhumer des artefacts des premières foires des fourrures dans une ruelle du Vieux-Montréal. Une rare occasion d'explorer ces vestiges de la Nouvelle-France avant qu'ils ne soient emportés par les pelles mécaniques, malheureusement. Mais on va préserver les artefacts. On a retrouvé quelque chose de rare, la garde d'une courte épée ou d'un poignard. C'est un objet assez raffiné, voire même luxueux, qui appartenait possiblement à un bourgeois gentilhomme ou à un aristocrate qui l'apportait pour pavaner, explique l'archéologue Simon Santerre, chargé de projet pour la film...
Pour pavaner.
Pour pavaner. Oui. Oui, 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 on pavane. Mais c'est une danse, la pavane, dans les années... À la cour, là, une pavane. Alors, quand tu pavanais, on disait ça, quelqu'un
oui,
se
oui,
pavane.
Oui. Oui. C'est parce que j'avais pas compris le verbe.
Chargé de projet pour la firme Ethnoscope qui mène les fouilles pour la ville de Montréal. C'est une des seules ruelles qui ont été préservées des nouvelles constructions. Il y a tout près de 2 mètres d'accumulation d'histoire dans les couches de sédiments, nous dit Marie-Claude Morin, archéologue à la direction de l'urbanisme de la ville de Montréal. Dans les prochaines semaines, la ruelle sera entièrement excavée et remise à neuf dans le cadre d'un projet de réfection de la rue Saint-Paul, la plus ancienne artère commerciale de Montréal, on l'oublie souvent ça. Avant d'être aménagée par les Sulpiciens en 1673, la rue Saint-Paul était un sentier déjà fréquenté par les Autochtones il y a près de 4000 ans, figurez-vous, indiquent les données archéologiques. À la fin du 17e siècle, des centaines de commerçants et d'Autochtones se rencontraient pendant l'été dans 3 ruelles près de l'ancienne place royale, dont la ruelle Chaguamigon, pour faire le commerce de la fourrure. Du bois extrêmement bien préservé, trouvé dans la glaise, témoigne de la présence d'anciens étals de bois qui étaient installés pour une grande foire. C'était des petites boutiques volantes, comme un marché de Noël, illustre Madame Morin. Il pouvait y avoir jusqu'à 800 Autochtones qui venaient troquer et traiter avec les commerçants, ajoute-t-elle. C'est beaucoup de monde pour
bien
l'époque.
Oui.
Là. Les Autochtones campaient de l'autre côté du fleuve et venaient chaque matin voir les arrivages de marchandises. Ils échangeaient de tout. On a trouvé beaucoup de couteaux pliants et des couteaux croches qui pouvaient servir à travailler le bois, dans les couches et qu'ils échangeaient contre des fourrures, indique Simon Santerre.
Santerre.
Son équipe a trouvé près de la place royale, à quelques mètres de la ruelle, plusieurs centaines de perles de verre dont les Autochtones étaient très friands. Les Européens arrivaient avec des tonneaux chargés de perles qu'ils pouvaient échanger facilement. Pour les Autochtones, c'était impressionnant d'avoir accès à une telle quantité de perles. Ben, une perle de verre, hein, c'est pas une perle, la perle
qu'on se met. Douce.
Non, c'est pas la même chose du tout. C'est pas le même prix.
Les perles de satin.
C'est pas le même prix du tout. Les archéologues ont aussi découvert des retailles de chaudron de cuivre que les Autochtones découpaient pour se faire des parures clinquantes. Ça, c'est un calumet. On voit sur la photo, vous la voyez aussi, Hélène, le calumet.
Oui, c'est bien illustré. Oui. Hein, il faut dire qu'il y a un photographe qui a accompagné Tristan Péloquin, qui s'appelle Martin Tremblay. C'est important de le mentionner.
Oui. Alors, c'est un calumet que les gens portaient au cou, montre M. Santerre. On ne l'a pas vidé parce qu'il y a peut-être encore un peu de tabac dedans qu'on pourrait éventuellement faire analyser. On va le fumer, oui, ça va être du bon tabac, là. On pourrait éventuellement le faire analyser en laboratoire, si c'est possible, pour voir de quelle variété il s'agissait et d'où il venait. Puis ça nous permettrait de savoir quelle sorte de tabac on cultivait à l'époque. Alors, le calumet dont on voit la photo, nous deux, là, les ceux à la maison ne le voient pas.
Les ceux à la maison, toi.
Oui.
C'est dans la presse plus. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent suivre avec nous là, votre lecture. Oui.
Alors, les calumets étaient fabriqués la plupart du temps par les Canadiens et leur forme ainsi que leur décoration est inspirée de la culture autochtone, comme c'est le cas ici avec ce qu'on voit sur l'image, avec des ponctuations sur les bords de la tête de pipe. Nous explique toujours M. Santerre. Plus résistants que les pipes en argile blanche, les calumets étaient adaptés à la vie des coureurs de bois, mais aussi à celle des agriculteurs et autres travailleurs qui pouvaient en transporter un sans craindre de l'abîmer. Mais ce qui me surprend, c'est que moi, un calumet de paix, pour moi, ce que j'avais vu dans les films, toujours très long, tu sais, c'est très, très long, calumet. Celui-là est assez petit, il fait peut-être, quoi, je sais pas, 3 pouces de long. Mais c'était le calumet de l'époque.
Beaucoup je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Je pensais que c'était un genre de pipe.
Ben calumet, moi, ce que j'ai toujours vu, c'est une pipe. Mais il y a ça, probablement que ça devait être... tu sais, dans les films, hein, surtout les films d'Hollywood, là, où on montrait calumet, les choses ne sont pas toujours vraies.
Non.
Les westerns des années 50. Aujourd'hui, c'est plus près de la vérité, mais...
On se fait bourrer.
Oui, oui. Beaucoup des objets exhumés témoignent d'un transfert de connaissances et de technologies, mais aussi de cultures mixtes, constate Marie-Claude Morin. Et ce sont dans bien des cas des objets fabriqués par des Européens, mais qui s'inspirent du contact avec les Autochtones. Dans les prochains jours, le chantier archéologique laissera place à de l'équipement lourd, malheureusement, qui viendra excaver la ruelle pour y installer de nouveaux équipements de canalisation ainsi qu'une nouvelle chaussée de granit. Et à genoux au sol, la petite équipe d'archéologues est dans une course contre la montre pour documenter, pour la dernière fois, ce pan de l'histoire qui s'apprête à disparaître pour de bon sous la chaussée.
C'est plate quand même qu'il y ait une sorte de pression, la course contre la montre pour trouver des artefacts importants, peut-être.
Ouais. Dommage qu'on ne puisse pas faire comme on a fait pour le premier parlement, là, dont on a trouvé les fondations. Puis il y a une plaque, on peut voir, là on peut le voir encore.
Oui.
Mais là, il n'y avait peut-être pas de la tuyauterie à passer. Alors. Et les objets trouvés seront analysés puis conservés dans la collection archéologique municipale de Montréal. Un rapport public sera ensuite rédigé et distribué. C'est exceptionnel comme contexte et on ne reviendra pas. Alors, on va prendre notre temps, affirme Mme Morin.
D'accord. Alors, c'est pas une course contre la montre.
Ben, dans le sens que, oui, ils prennent leur temps, mais il y a quand même une date.
Prends ton temps, mais fais ça vite.
Oui, bien, c'est ça. Lancé en 2015, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Paul ont permis aux archéologues de fouiller plusieurs sites qui ont marqué l'histoire de cette artère commerciale.
Wow!
Et voilà.
Vraiment un bel article, absolument passionnant. Une dernière fouille avant les pelles mécaniques. Fenêtre sur la Nouvelle-France, c'est un texte de Tristan Péloquin, photo de Martin Tremblay. Quelques minutes encore avec vous, Serge. Bien, vous êtes de toute façon avec nous jusqu'à 10h30, mais dans votre portion à vous, vous nous parlez de l'origine d'expression de certains mots en langue française.
Oui, langue québécoise. Française,
québécoise. Oui.
Tout le monde s'accorde pour dire que le français du Québec est une langue imagée, remplie de tournures et d'expressions, puisant leur origine dans le quotidien. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, où la saveur des choses est déjà dans les mots, chantait Yves Duteil.
Mais oui, un français, lui.
Oui, dans les années 80. Mais d'où proviennent les expressions que l'on utilise tous les jours? Tirez-vous une bûche, on vous explique ça. C'est un texte de Martin Thibault dans différentes revues Nostalgie. Alors, c'est aux deux éditions, il y a deux parutions, c'est-à-dire il y a une section sur ça, sur les expressions.
Une belle expression,
oui.
Ça, tirez-vous une bûche. Je trouve,
oui,
ça accueillant.
Oui, oui, oui. Sauf que moi, j'ai, dans une rencontre, petite anecdote, il y avait un Français, puis on lui a dit, tire-toi une bûche. Puis il a vraiment pensé que c'était qu'on se tirait des bûches.
Oh, OK.
Alors, chanter la pomme, ça vous, oui, dit quelque chose?
Bien oui.
Oui, ça veut
faire
dire
le charme,
courtiser une
flirter.
Personne, ouais, par le charme, la draguer, en langage moderne. Origine, on aurait tendance ici à penser à la pomme d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. Mais l'expression prendrait plutôt son origine dans notre folklore. Dans une danse ou lors d'une soirée, existaient plusieurs façons de se tenir ou de se toucher la main entre cavaliers et cavalières, un véritable code érotique, sans qu'aucune parole soit dite. Ah, ah. L'un des signes de ce discours muet consistait pour le garçon à presser, écoutez bien les gars, à presser d'une façon particulière la paume de la fille. A-t-il pu se produire dans ce contexte musical des danses folkloriques une transformation du son? Chanter la pomme, c'est une hypothèse qui est loin d'être négligeable.
Mais est-ce que vous avez raconté l'origine de l'expression « tirer une bûche »
L'origine?
Non, mais tantôt, vous avez parlé de tirer une bûche. Tirez-vous,
oui,
une bûche?
Oui, non, ben je ne l'ai pas dans ça parce que j'en ai déjà parlé à une autre émission.
Ah, d'accord,
tirer une
je
ne
m'en souviens,
oui,
plus.
Oui,
bon.
Oui, il y a déjà. Coûter un bras.
Oui, il reste une minute.
Ce qui veut dire que quelque chose est cher. Origine, ici encore, les anglophones ont une expression signifiant la même chose, coûter un bras et une jambe, et on s'en serait inspiré. Il y aurait trois origines possibles. Les cow-boys du Far West pouvaient vouloir accomplir une vengeance, quitte à en perdre une jambe. Aïe, aïe. Un militaire américain qui aurait été rétrogradé... oui. Un militaire américain qui aurait été rétrogradé et à qui l'on aurait arraché ses galons cousus sur sa manche. Sa faute lui aurait donc coûté un bras. On arrache ça, les galons. Mm-hmm. Les portraitistes du 17e et 18e siècle changeaient, semblait-il, un prix supplémentaire pour peindre les membres de leur modèle.
Merci, Serge. Puis vous me rappellerez tirer une bûche, là,
oui.
Ça vient d'où un jour? Parce que
okay,
peut-être,
bah, ouais,
que d'autres auditeurs aussi se posent la question. Mm-hmm. Alors, place aux Eagles et Daniel Lachance dans la prochaine demi-heure.
Écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Thank you.
Ah, quelle belle chanson! On a le goût de partir en auto, oui, en convertible.
C'était la note que vous avez faite, juste avant qu'on revienne en onde, non?
Oui, je me suis pris pour... Qui fait cette note? Oh, Don Henley?
Je pense, je ne suis pas certain. J'ai jamais été, comme je l'ai dit tantôt, hein, j'ai jamais été un fan.
Non, on dirait que vous êtes fier de dire ça.
Non, c'est pas que je suis fier de le dire, mais je veux le mentionner parce, oui, qu'effectivement, il y a plein de choses de oui, ce groupe-là que je connais plus ou moins. Par contre, cette chanson-là, je l'ai toujours aimée.
Ah oui.
Puis, il y a une bonne raison à ça aussi, c'est qu'à l'époque, quand ça a sorti, j'étais très jeune, hein, je commençais à jouer dans les bars à 17 ans. On jouait cette chanson-là. Et la basse est très importante dans cette chanson-là. Il y a des trucs pas mal intéressant à faire. Je jouais de la basse à l'époque.
Okay. Donc, c'est la chanson beaucoup... titre de l'album.
La chanson titre de l'album qui s'appelait, vous l'aurez sûrement compris, One of These Nights. Je pense qu'ils l'ont répété assez souvent dans la finale. Et cet album-là avait été lancé le 10 juin 1975. Donc, ça fait 50 ans aujourd'hui. Ça ne me rajeunit pas.
Non, ça a fait 50 ans hier.
Je jouais déjà hier, effectivement. On est le 11 hein, aujourd'hui. Bon, oui. J'ai manqué quelque chose. Donc, on est le 11.
50 ans et un jour.
50 ans et un jour. Ça vieillit quand même assez bien, je trouve, oui, cet album-là. Par contre, les autres, plus ou moins. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Donc, juste pour vous parler un peu du groupe des Eagles, le groupe avait été formé en 1970 par Don Henley et Glenn Frey. C'est un groupe de Californie, LA. Et ce groupe-là, les gars se sont connus alors qu'ils étaient le groupe d'accompagnement, les musiciens d'accompagnement, de la chanteuse Linda Ronstadt. Je ne sais pas si vous
connaissez. Ah, ben oui.
Ouais.
Grand talent.
Oui, c'est comme ça qu'ils se sont connus. C'est comme ça qu'ils ont fini par partir le groupe de Eagles. Et ils avaient lancé leur premier album qui s'appelait tout simplement The Eagles en 1972. Et sur cet album-là, il y avait des chansons « Take it easy »,« Witchy Woman » et « Peaceful, easy feeling ». Donc, c'était déjà... ça partait fort quand même. C'était des chansons qui ont joué quand même beaucoup à la radio à l'époque. Je pense surtout « Take it easy », ouais, tout le monde... Je vais vous faire jouer un extrait tantôt. On la reconnaît immédiatement. Et c'était un groupe qui se voulait un groupe rock à l'époque, mais... à mon avis, ça sonnait pas mal plus country rock. Là,
folk.
Folk, oui. Donc, ils se sont vraiment taillé une place, je pense, dans ces années-là. Il y avait un son à eux. Ils avaient surtout, je pense, des très belles harmonies vocales, comme on a pu le voir.
Très belles.
Pas le voir, mais l'entendre dans la chanson « One of These Nights ».
Ils chantaient tous, hein?
Oui, tout le monde chantait là-dedans. Il y a eu plusieurs musiciens qui se sont joints ou qui ont quitté le groupe là, avec les années, mais les deux, Glenn Frey et Don Henley, étaient là depuis le début. En 1973, ils ont lancé l'autre album, Desperado, qui a moins bien fonctionné, malgré le fait que la chanson Desperado elle-même a quand même joué beaucoup. Et il y a une autre chanson aussi là-dessus qui a joué pas mal, c'était Tequila Sunrise.
Oui.
Donc, je ne sais pas pourquoi l'album a bien fonctionné, mais ils ont quand même 2,45 tours qui ont joué beaucoup à la radio.
Vous ne savez pas pourquoi l'album a fonctionné ou pas?
A moins bien fonctionné, oui, parce que quand même, c'était un album qui était assez solide. Mais bon, je ne sais pas, une question de timing des fois. En 1974, ils ont lancé « On the Border » et encore là, il y avait deux chansons qui ont marché quand même assez bien. « Best of My Love » qui a été numéro un. Et la chanson « Already Gone », que je me souviens quand même de la mélodie assez clairement. C'est des chansons...
Non, quand même assez accrocheur. Pas trop les Eagles...
Oui, je ne sais pas exactement pourquoi... Si je recule 50 ans en arrière, il y a probablement des bonnes raisons pourquoi je les aimais moins que ce qui se passait à l'époque, peut-être aussi.
Vous accrochez aujourd'hui, sur d'autres choses.
Oui, puis aujourd'hui, quand je réécoute ça... je dois dire quand même que c'était très bien fait, c'était très professionnel, c'était très... je ne sais pas comment dire en français, là, mais c'était clean. Oui, ça sonnait très professionnel.
Et c'est toujours bon aujourd'hui. En tout cas, il y a plusieurs chansons là, qui sont toujours agréables à écouter.
Oui. Je pense que ça, justement, peut-être que j'aimais un peu moins à l'époque. C'était trop clean à mon goût. ça manquait. J'aime
vous
ça quand
dire
ça lisse, dérape.
Propre.
Ouais, c'est ça. J'aime ça quand ça va, quand ça pousse un peu plus, quand c'est plus intense, puis aux limites du dérapage un peu d'un courbe. Là. Eux autres, ils jouaient trop prudemment, j'ai l'impression. Peut-être que j'étais trop jeune aussi pour apprécier ces qualités-là de retenue. Je pense que c'est ça, la retenue qui m'énervait.
Ça se peut.
Et surtout, je pense que ce qui a été le coup fatal dans mon cas, et là, je sais qu'il y a plein de monde qui ne m'aimeront pas pour dire ça.
Vous avez parlé d'Hotel California?
Oui. Ouais. Quand ils ont sorti Hotel California en 1976, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Je n'aimais pas ça. Je ne trouvais pas ça bon. Et quand j'ai vu que ça jouait à plein temps, à tous les jours, encore aujourd'hui, et j'ai eu à jouer ça, cette abomination-là, plusieurs fois, j'ai toujours
c'est une longue
détesté.
Chanson. Une longue chanson en plus, une torture pour
ça
vous,
finit
j'imagine.
Plus. Ça finit plus. En tout cas, fait que désolé, ben, je sais que c'est une très bonne chanson.
Ben, c'est la chanson
de la
qui a
vie.
Fait tout exploser pour le groupe, là, dans
absolument,
le bon sens
c'est,
du mot.
C'est vraiment le... Et d'ailleurs, c'est quand ils ont lancé Hotel California en 1976, c'était avec un nouveau guitariste qui s'était joint à eux, Joe Walsh, qui avait fait partie du James Gang auparavant et qui avait eu sa carrière solo aussi. Donc, ça a changé un peu le son du groupe. Et oui, ça a été une bonne... Je pense que c'était vraiment, comme vous dites, c'est celui... C'est probablement l'album qui les a fait connaître le plus, leur plus gros succès. Il y a deux 45 tours de cet album-là qui ont été numéro un. New Kid in Town et Hotel California, bien entendu. Et il y a aussi Life in the Fast Lane qui a joué beaucoup. Donc, oui, on peut dire que c'est un très bon... Je lis cet album-là. Je l'ai lancé deux. Uh-huh. C'est pas parce que j'apprécie pas que je les ai pas quand même. C'est juste que c'était pas tout à fait mon style.
Mais aujourd'hui, Hotel California, comment vous recevez la chanson?
Pas mieux.
Parce que c'est vraiment une chanson qu'on peut dire, qu'on peut qualifier de brûlée, là, tellement qu'elle a joué. C'est le...
Oui, il y a cet aspect-là, je pense, qu'ils m'ont vraiment tanné avec ça au départ. Là. Mais c'est surtout que comme musicien, puis là, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres musiciens qui vont penser comme moi. Solo de guitare interminable, là, qu'on a l'impression qu'ils font juste pratiquer leurs arpèges. Non, ça, pour moi,
ça vous fait décrocher.
Oui, ça me fait décrocher.
J'imagine que ça ne fait pas partie des extraits que vous avez choisis.
Malheureusement, oui, parce que c'est un incontournable.
Vous êtes généreux.
Oui. D'ailleurs, on va en écouter quelques extraits, pas seulement de l'album One of These Nights, mais quelques extraits de leur carrière.
Everybody loves you, so don't let them down. You can't hide your lying eyes, and your smile is a thin disguise. I thought by now you'd realize. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Welcome to the Hotel California.
Daniel, Mathieu vient de dire, oui. On dirait que c'est du Neil Young trop propre. Lui aussi est de votre avis là, que c'est un peu clean, lisse. Hein? Mais il me semble que ça nous plonge tout de suite dans l'esprit Côte-Ouest. Moi, j'aime beaucoup ça.
Oui, oui, quand même. Je dois admettre que ça sonne très, très bien. C'est très, très bien fait. C'est juste comme je disais tantôt, peut-être surtout à l'époque, j'étais un peu jeune peut-être pour apprécier ces qualités-là. J'aurais aimé que ça dérape un peu plus, que ça aille un peu plus.
Que ça soit un peu plus sale, entre guillemets.
Que le son aille un peu plus.
Distorsionne, oui.
Ouais, ouais, ouais.
Du Jimi Hendrix dans
peut-être
les
pas autant, mais entre les deux, ils sont peut-être un peu trop au centre. Mais bon.
Mais c'était bon le montage.
Oui, merci, merci. J'ai quand même... vous savez, les sacrifices que j'ai faits, hein? Je me suis tapé plusieurs chansons des Girls pour faire ça. Là. Bon.
Hey, on vous a pas tordu un bras, là. C'est votre choix.
J'ai beaucoup de mérite.
Ah oui, ah, oui. On vous salue, on vous salue.
Et vous savez que la même année qu'ils ont sorti l'album Hotel California, la même année, ils ont sorti un album qui s'appelait « Their Greatest Hits ».
La même année?
Oui, puis ils ont sorti ce qui s'appelait « The Greatest Hits 1971-1975 ». Et cet album-là, c'était l'album le plus vendu aux États-Unis,
ah,
apparemment.
Ben oui. C'est vendeur, « Greatest Hits ».
Oui, oui, devant « Thriller » de Michael Jackson.
Ah oui?
Oui, et ce qui m'a toujours impressionné, surtout de Eagles en particulier, c'est qu'ils ont fait 7 albums studio. Ils ont lancé 7 albums studio. Et 11 albums compilation. Ça sonne drôle, ça. Comment tu peux faire plus d'albums compilation que d'albums studio?
Oui, j'imagine qu'il y a la production derrière ça, le producteur, le gérant. Ouais.
Effectivement, c'est les compagnies de disques qui décident. Ah, là, on est dû pour... Donc, ça envoie un message. Hein. Souvent, on achète un album de meilleur succès, puis on se dit, ah, il doit avoir probablement toutes les bonnes chansons de ce groupe-là.
Il en manque toujours une.
Il en manque toujours. Tu es obligé d'acheter une autre compilation. Oui. Fait que finalement, on se ramasse que si on avait acheté les albums studio, les originaux, on aurait vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais bon, ça, c'est mon opinion, encore une fois.
Et on la respecte.
Oui, j'espère bien. Donc, suite à ça, en 1979, ils ont lancé un autre album qui s'appelait « The Long Run ». Et encore là, ils ont eu 3 titres qui se sont placés au top 10. « Heartache Tonight », que vous connaissez sûrement, mm-hmm. « The Long Run ». Et l'autre, « I Can't Tell You Why ». Ça, ça ne me dit rien, par exemple. Je n'ai pas entendu ça. Là. Et le groupe s'est séparé en 1900.
Je ne peux pas dire pourquoi.
Ouais, moi non plus. Peut-être que ça joue un peu.
Non, mais c'est le titre de la chanson en français.
Ouais, ah, effectivement, j'ai pas été. Mon traducteur simultané n'a pas été assez rapide. Le groupe s'est séparé en 1980, mais ils se sont retrouvés en 1994 pour l'album Hell Freezes Over, qui était un mélange de chansons live et en studio.
Et le titre voulait dire quelque chose hein, par rapport le fait qu'il a été congelé pendant quelque temps.
Effectivement. Et cet album-là, moi, il y a une chose que j'ai retenue qui m'a plu beaucoup, c'est qu'ils ont fait une nouvelle version de Hotel California, une version acoustique. Et celle-là, je l'ai trouvée bonne.
Ah,
celle-là, quand je l'entends, c'est correct, elle passe mieux que l'original. Ça, c'est rare que je vais dire ça, mais j'aime mieux cette version-là que l'original. Et en 1998, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Par la suite, ils ont sorti en 2007 un autre album, Long Road Out of Eden. Et c'était leur premier album studio en 28 ans. Et celle-là, je connais absolument rien de cet album-là. Je n'ai pas entendu absolument rien.
Bon, mais ils continuent de faire des spectacles. Hein. Je regarde ça, leur calendrier. Ils sont en Nouvelle-Zélande vendredi, si ça vous intéresse.
Oui, et c'est surprenant quand même parce que en 2016, le 18 janvier 2016, Glenn Frey est décédé suite d'une pneumonie. Et à ce moment-là, Don Henley avait décidé qu'il ne voulait pas continuer de fonctionner avec le groupe Eagles. Là. Probablement que ça l'avait trop ébranlé à l'époque.
Ouais.
Mais bon, semblerait qu'il a décidé de reprendre quand même. Mm-hmm. J'imagine que la demande était assez forte pour que ça vaille la peine.
Alors, on y va avec « Take it to the limit ».
Oui, c'était une autre des chansons qui était tirée de l'album qui a eu 50 ans hier, « Take it to the limit ».
Take It to the Limit, chanté ici par Randy Mesmer, qui est un des membres fondateurs des Eagles, qui est mort, lui, également, en 2023. L'autre, vous parliez de Glenn Frey, qui est mort, lui, c'était Glenn Frey, en 2016. Et on soulignait le 50e anniversaire One of These Nights de cet album des Eagles avec vous, Daniel. Et Daniel, on parle de mort. Vous vouliez souligner le décès d'un autre groupe.
Oui, absolument. J'ai appris hier le décès de Sylvester Stewart, qui était mieux connu sous le nom de Sly Stone.
Oui.
Le leader, dans le fond, du groupe Sly and the Family Stone, qui avait été très, très remarqué à Woodstock. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Woodstock sur le festival.
Oui, longtemps, mais je l'ai vu.
Oui, je pense que c'est à revoir, ne serait-ce que pour la performance de Sly and the Family Stone. Ça avait été assez impressionnant. Donc, Sly Stone, qui avait eu une carrière assez, peut-être un peu courte quand même, parce que le groupe a été très populaire à fin des années 60, début des années 70. Après, on en entendait moins parler.
Il y a eu des problèmes de drogue.
Oui, c'était quand même assez intense. Eux autres, c'était intense. Eux autres, c'était le contraire.
C'était pas lisse. C'était pas clean, comme vous l'avez dit tantôt.
Du tout. C'était très intense. Et d'ailleurs, la performance, je reviens à la performance de Woodstock, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. C'était intense. Ça bougeait.
Oui, j'imagine que c'est encore impressionnant aujourd'hui.
Oui, ça vaut la peine de l'écouter et j'invite tout le monde à écouter. Eux aussi, ils ont lancé un album qui était un Greatest Hits et c'était probablement un des rares albums que moi, je suis capable encore d'écouter aujourd'hui d'un bout à l'autre sans interruption. C'est vraiment très bon.
Ah oui?
Et Sly Stone, c'était un multi-instrumentiste aussi. Hein? Il jouait, il était chanteur, écrivait de la musique.
Style musical, funky, funk, soul.
Oui, beaucoup funk. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques musicaux de l'époque qui disaient « Si James Brown a inventé le funk, Sly Stone l'a vraiment perfectionné.
Ah, wow.
Il l'a amené à un autre niveau. »
Alors, Sly Stone, qui n'est plus, qui est décédé à l'âge de 82 ans, et vous avez choisi de nous offrir une chanson de
Everyday
Sly
People.
And the Family Stone.
Ouais. C'est peut-être la plus clean du groupe quand même. C'est pas celle qui brasse le plus. Mais je trouvais que pour l'occasion, ça se présente bien.
Everyday People. Merci beaucoup tout, Daniel Lachance. On se retrouve, on l'espère, en studio. On se croise les doigts la semaine prochaine.
Probablement en studio la semaine prochaine, si la grève ne m'en empêche pas.
OK. À suivre, donc. Merci aussi, Serge Bradet. À bientôt.
Plaisir. À la semaine prochaine. I am everyday.
C'était Sly Stone qui nous a quittés à l'âge de 82 ans. Sa famille l'a annoncé aux médias lundi. Alors, c'est tout récent. Dans la prochaine demi-heure, chronique INCA et aussi on parle des Franco avec le directeur de la programmation.
Vous au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. L'été approche à grands pas. Sarah Rouleau, gestionnaire des communications de l'organisme INCA, est avec nous pour nous parler des activités offertes aux jeunes cet été chez INCA. Bonjour Sarah.
Bonjour Hélène.
Merci d'être avec nous. Alors Sarah, est-ce que vous retournez au camp Lake Joe, tout adapté, en Ontario cet été?
Oui, du 13 au 19 juillet, nous irons au camp Lake Joe, mais cette fois-ci avec des jeunes adultes. Et quand je dis nous, malheureusement, c'est pas moi cette année. Oh. Ça va être Salma, notre chef du programme jeunesse, et Najla, notre gestionnaire des programmes, qui vont partir en train avec les jeunes adultes pour profiter là, du magnifique camp Lake Joe qui est près d'un lac dans la région de Muskoka. Puis en fait, pour les jeunes adultes, c'est une super occasion de changer d'air, de profiter de l'été dans un environnement super adapté. Bien sûr aussi de pratiquer leur anglais, mais surtout de développer leur autonomie. Donc déjà, les jeunes doivent acheter eux-mêmes là, leur billet de transport pour se rendre à Toronto, leur billet de train s'ils veulent le faire être avec nous. Et sur place, ben le matin, il va y avoir des activités structurées, mais en après-midi, ils vont être plus libres de choisir leur propre aventure, puis ils vont pouvoir décider là, des activités auxquelles ils souhaitent participer. Puis comme j'en ai déjà parlé dans le passé, bien le camp Lake Joe d'INCA, il est super accessible pour les personnes aveugles. Donc, c'est très facile de s'orienter, de se déplacer de manière autonome sur le site. Puis je rajoute qu'il est très populaire aussi parce que quand je préparais l'entrevue de ce matin, ouais, j'ai vu que toutes les autres semaines du camp sont complètes. Donc, le camp leadership, les camps pour les familles, celui pour les jeunes, pour les enfants, sont toutes complètes. Donc, c'est vraiment une chance qu'ils ont les jeunes adultes de pouvoir encore s'inscrire. Là, il reste quelques places.
Ah oui. Quel genre d'activités vont-ils pouvoir faire?
Tout. En fait, c'est vraiment une semaine remplie de baignade, de sport, d'art, de musique, d'activités sociales et de loisirs, donc avec d'autres jeunes adultes qui leur ressemblent. Puis, en fait, à Lake Joe, il n'y a vraiment pas de limite. Hein? Donc, ils peuvent faire du ski nautique, de l'escalade, du soccer, du basket, de la poterie, des jeux. Il y a des soirées spectacles, du tir à l'arc. Puis, j'en passe, là, j'ai nommé ceux qui me venaient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la semaine des jeunes adultes, il y a trois volets. Donc, les activités de l'après-midi vont vraiment dépendre du volet qu'ils choisissent. Donc, le premier volet, c'est leadership. Ceux qui choisissent ce volet-là vont pouvoir apprendre à renforcer leur confiance, s'exprimer et développer leur image de marque personnelle. Donc, il va y avoir plus des ateliers, je dirais, là, sur la prise de parole en public, la défense des droits et le développement personnel. Le deuxième volet, c'est le volet sportif. Donc, ils pourront faire la majorité des sports que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, pour ceux qui aiment bouger, il va y avoir aussi, bien sûr, des jeux sociaux, mais aussi des ateliers informatifs sur la santé et le bien-être. Donc, ça vise plus comme à promouvoir un mode de vie sain et actif, si on peut dire. Et le dernier volet, le programme social ou le volet social, c'est vraiment pour ceux qui cherchent à créer plus des liens, à partager des expériences, à s'encourager mutuellement. Donc, il va y avoir toujours des jeux, des activités artistiques, cette fois-ci un peu plus, beaucoup de discussions. Ils vont apprendre eux aussi, mais le but, c'est vraiment comme de créer plus une communauté solidaire, sentir qui forme une belle équipe, là.
Et Sarah, qu'est-ce que ça prend pour en bénéficier? Quels sont les prérequis?
Oui, donc pour pouvoir participer à ce super camp, il faut avoir 18 à 30 ans, avoir le goût de s'évader et de se dépasser. Puis, les frais d'inscription sont de 635 $. Ça inclut la semaine d'activité, les repas, le transport de Toronto vers le camp, mais pas le transport pour se rendre à Toronto, et l'hébergement, donc avec des chambres super confortables, qu'il y a une salle de bain dans la chambre et tout. Donc, c'est une belle manière, je dirais, de passer des vacances, mais beaucoup moins cher qu'une semaine dans le sud. En plus, c'est un milieu adapté. Puis, il y a d'autres jeunes là, de partout au Canada qui vivent avec une limitation visuelle. Puis, comme je disais tantôt, ben, ça leur donne une belle chance de pratiquer leur anglais.
Ils vivront sûrement un moment mémorable. En tout cas, on leur souhaite, c'est de bon augure. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour ceux et celles qui ne peuvent pas se rendre au Lake George,
Oui, on a un camp virtuel. Donc, celui-là, il va avoir lieu du mardi au jeudi 29 au 31 juillet. C'est pour les 16 à 25 ans, donc c'est à peu près le même public cible. Il va y avoir des activités aussi pour pratiquer l'anglais, des exercices physiques, mais plus faciles à faire durant virtuel, donc peut-être un petit peu plus doux. Des conférences d'INCA, donc par exemple, il va y avoir des ateliers sur la techno ou des conférences sur la défense des droits. Puis bien sûr, du plaisir, donc il va y avoir des jeux. On peut penser peut-être deux mensonges, une vérité ou des énigmes, des choses comme ça. Donc, 3 jours pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lake Joe.
Bon, alors c'est une belle alternative. Combien ça coûte?
C'est gratuit, celui-là.
Ah! Est-ce que vous offrez d'autres occasions d'échanger pour les jeunes cet été?
Oui, on a des groupes d'entraide qu'on appelle des groupes Harmonie. Donc, ce sont des groupes de discussion autour de l'adaptation à la limitation visuelle. Donc, c'est un petit peu moins camp de vacances, là. C'est vraiment plus pour avoir des outils, puis aussi briser l'isolement en rencontrant d'autres jeunes. Mais c'est le fun, là. C'est des belles discussions. C'est pas nécessairement trop toujours sérieux non plus, là. Donc, il y a des thèmes ou des sujets qui vont tourner autour de la technologie, le deuil de la perte de vision, les relations sociales, les loisirs, nos passions. Donc, ils vont vraiment ressortir là avec plein de conseils et de bons moments entre eux. Donc, il va y avoir un groupe pour les adolescents et un autre pour les adultes. Ça va avoir lieu à toutes les 2 semaines à partir du 7 juillet.
Bon, ça fait le tour?
En fait, les autres, c'est pas encore confirmé, mais on devrait avoir un atelier de cuisine. Ça, c'est vraiment à notre hub à Montréal avec un ancien chef cuisinier aveugle. Ça devrait être le 22 ou peut-être le 24 juillet à suivre.
À voir, oui.
Oui, puis
à confirmer.
Il va avoir le retour. Oui, exact. Il va avoir le retour de l'atelier d'expression orale en début juillet aussi à confirmer. Donc ça, c'est vraiment une occasion pour les jeunes de pratiquer leur prise de parole en public avec les conseils et la rétroaction de la metteuse en scène Audrey-Anne Bouchard qui vit elle-même avec une perte de vision. Donc on espère bien, ça devrait revenir début juillet. Suivez-nous pour savoir les dates puis être sûr que ça a lieu.
Parfait. Très belle programmation. Et s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à participer à l'une des activités jeunesse d'INCA pendant l'été, comment ils peuvent s'inscrire?
En fait, ils peuvent simplement appeler Salma Moudrika, notre chef du programme jeunesse, au 1-800-465-4622, poste 236. Donc, 1-800-465-4622, poste 236. Et là, c'est comme un peu une exclusivité que je vous donne.
On aime ça.
Mais la programmation va être éventuellement diffusée là, sur notre site Internet et dans nos infolettes, mais vous avez été mise au courant avant tout le monde.
Bon, voilà. Alors, ça nous fait plaisir. Et Sarah Rouleau, gestionnaire des communications, merci beaucoup pour ce scoop. Merci de nous avoir présenté les programmes jeunesse de l'été. On se revoit très bientôt, j'espère, pour connaître vos programmes techno et d'entraide.
Oui, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux, à visiter notre site internet inca.ca. Puis d'ailleurs, dans le bas de la page, vous pouvez vous inscrire à nos bulletins électroniques. C'est vraiment la meilleure façon d'être tenu informé en 2 entrevues avec vous.
Merci beaucoup, Sarah. À la prochaine.
Merci. À bientôt.
Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire, je dois de moi. Malgré les hauts, les bas, je sais m'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe, j'ai lutté pour en être. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Quittez pas un cœur
l'effort et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Précieux petit insolent, à la bouche, aux yeux violents. Je me crois forte et pourtant, je sens que ça devient glissant. La fièvre me prend lentement, tâche mes rêves adolescents. Tu m'enivres et je me surprends à y penser de temps en temps. Ne me dis pas qui je ne suis pas, ne fais pas celui qui sait mieux que moi ce que les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Épargne-moi le cinéma de tes remords et je ne sais quoi. Parfois les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Le plus facile des calmants sur ta peau, je me casse les dents. Je cherche depuis trop longtemps à cracher sur mes 20 ans. Je veux encore ton corps ardent contre mon cœur innocent. Je laisse respirer le temps. Ne me dis pas qui je ne suis pas. Celui qui sait mieux que moi ce que les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. Épargne-moi le cinéma de tes remords et je ne sais quoi. Parfois les filles de mon âge ont envie des gars de ton âge. à l'usure aura eu raison de ma peau, aura eu raison de ma peau, aura eu raison de ma peau.
On vient d'entendre Gims avec la chanson « Jusqu'ici, tout va bien » et Lou-Adrienne Cassidy, « Les amours immatures ».
Oui, pendant qu'on tente de joindre Morin Oximéry, directeur de la programmation des Franco de Montréal. Une nouvelle en attendant, une nouvelle importante depuis Occupation double Afrique du Sud, Claudie Mercier a toujours été l'une des personnalités les plus sincères et attachantes du web québécois. Très près de sa communauté, elle n'a jamais eu peur de se montrer vulnérable et c'est exactement ce qu'elle a fait en annonçant une nouvelle importante et pas facile à ses abonnés. Elle est en arrêt de travail pour une durée indéterminée. Sur Instagram, elle s'est ouverte sans filtre dans une session de questions-réponses. Elle a parlé de ce qu'elle vit depuis plusieurs mois. Avec honnêteté et émotion, on lui souhaite de se recentrer, de guérir et de revenir à elle-même en douceur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que le directeur de la programmation des Franco est au bout du fil. Bonjour, Morin Oximéry.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Alors, avant votre arrivée, on a écouté Gims qui sera au Centre Bell vendredi. Je serai dans la salle. Et aussi Lou-Adrienne Cassidy qui fait partie des Franco. Belle programmation cette année. Est-ce que vous êtes particulièrement fier de cette 36e édition, Morin?
Oui, nous sommes extrêmement fiers de cette programmation. Je pense que vous avez évoqué deux noms extrêmement intéressants. Gims, qui est l'un de ces artistes majeurs de la francophonie du monde entier, qui fait partie du top 5 des artistes les plus populaires, qui s'exprime et chante en français, ainsi que cette grande voix montante qui est Lou-Adrienne Cassidy, qui a sorti deux merveilleux albums cette année,
oui.
Qui nous fait l'honneur de donner un des rares spectacles sur la scène principale des Franco le samedi soir, effectivement. Dans l'ensemble, on a effectivement une programmation qui est très rassembleuse, très, très populaire, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jolis noms locaux ou internationaux, des nouvelles pépites, comme Théodora, des noms qu'on connaît, qui sont plus établis, comme Grand Corps Malade, ou Souchon qui vient avec ses fils, ou Bruno Pelletier, Claude Dubois.
Vous ratissez large. Quel thème ou enjeu vous ont guidé pour la programmation de cette année?
Quel thème ou enjeu?
Oui.
Oh, le thème, il est très simple, hein. Français.
Ouais.
Francophone. Puis c'est ça qui est intéressant avec les Franco, c'est que c'est un terrain de jeu qui est absolument fantastique, où on peut se permettre de présenter beaucoup de genres musicaux différents, qui va du hip-hop jusqu'au métal. Et tout ce qui se trouve au milieu, c'est-à-dire à peu près toute la musique. Donc c'est pas mal ça qui guide notre flair, puis la façon dont on monte les programmations. C'est sûr qu'on aime les projets spéciaux aussi, ils sont importants pour nous. Cette année, on célèbre les 30 ans de l'album 2 de Céline Dion.
Oui.
Avec une belle brochette d'artistes, donc ça fera partie des deux représentations au Québec cet été. Il y en a une au FEQ aussi, puis une autre chez nous, le dimanche 15 juin à la Place des Arts.
Un beau cadeau de la fête des Pères.
Un excellent cadeau de la fête des Pères, effectivement, vous avez bien raison.
Et combien de temps ça vous prend pour monter la programmation? Parce qu'il y a beaucoup de spectacles, beaucoup d'artistes.
Ah ben, on est en train de travailler sur 2026 déjà.
Oui.
Pour vous donner une idée.
Ah,
voilà.
Donc une année et plus.
Tout au long de l'année. Parfois, certains projets prennent des années à arriver sur nos scènes. Salbarbe, Salbarbe, c'est un cycle de deux ans de discussion,
timing
qui n'était pas exactement le bon. Puis c'est cette année qu'on les a. Ils fermeront le 21 juin sur la scène principale.
Alors, j'imagine que les artistes qui ne peuvent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est souvent des conflits d'horaires.
Oui, ça, effectivement. On n'a pas toujours les programmations... Enfin, on n'a pas toujours les artistes qu'on souhaiterait avoir sur une programmation. Mais en tout cas, cette année, je pense qu'on est pas loin de la perfection de ce qu'on voulait.
Quel artiste vous fait le plus plaisir d'accueillir cette année, Morin Oximéry?
Je pense que Catherine est un incontournable. J'ai un gros faible pour Lou-Adrien Cassidy, évidemment. Quelques artistes qui viennent d'un petit peu plus loin, excusez-moi, son nom m'échappe.
Ah, oh, j'aimerais vous aider.
Non, vous n'allez pas pouvoir m'aider.
Je ne suis pas dans votre tête.
Mairo, Youssef Swat, qui sont des rappeurs suisses et belges, qui joueront dans la deuxième partie du festival en fin de soirée. Ça, c'est des artistes très très intéressants à découvrir. Il y en a un peu partout.
Oui. Hein. Est-ce que ça fait ça fait quand même quelques années que vous avez repris la direction des Franco. Est-ce que certaines choses qui ont changé entre votre première année en poste et cette édition-ci?
On essaye tous les ans d'améliorer la programmation. Je pense que cette année, on arrive avec une programmation qui est quand même très, très, très costaud. Il y a quand même un truc qui nous a animé cette année, c'est d'essayer de se défaire de cette idée qu'il y a une scène principale dans ce festival pour être en mesure d'offrir des artistes de renom un peu partout sur le festival. Donc cette année,
Clara Luciani à l'extérieur gratuitement, on pense à elle en particulier.
Mais oui, tout à fait. Mais elle joue sur ce qu'on appelle la scène principale, qui est la scène Rogers.
Ouais.
Mais on va retrouver aussi une Isabelle Boulay le premier soir, donc vendredi, sur la Loto Québec, donc qui est la scène qui est à l'est.
Okay.
Donc on aura ce soir-là en même temps Isabelle Boulay et Jay Scott qui vont jouer. Donc on a plus cette notion de la scène principale où on met l'artiste le plus connu. Non, cette soirée-là, on a deux vrais gros artistes.
Oui.
On aurait pu les interchanger, ça aurait été exactement la même chose.
Mais pourquoi vous avez opté pour cette façon de présenter les spectacles?
Pourquoi? Pour donner plus de plaisir aux Montréalais et puis aux gens qui nous visitent de l'extérieur. Je pense que c'est des beaux cadeaux qu'on fait au public. Cette scène, justement, la Loto Québec va recevoir Isabelle Boulay, va recevoir Lost, va recevoir Galaxy, va recevoir Shreeze, wow. Thierry Larose. Ça, c'est des artistes qui auraient pu jouer sur la scène principale.
Mm-hmm.
Et on les met là, puis je pense que ça va amener plus de monde, puis plus de vitalité, puis plus de tout ça au Franco.
Oui, tout ça au Franco. Qu'est-ce qui fait que les Franco sont en mesure d'offrir autant de spectacles gratuitement? Parce que les deux tiers de la programmation sont gratuits.
Oui, il y a une équipe qui travaille extrêmement fort pour le financement de cette programmation, que ce soit du côté des partenariats publics et du côté des partenaires privés. C'est des gens qui sont dédiés, qui travaillent aussi tout au long de l'année pour nous permettre de créer ce budget à la programmation, qui nous permet de nous amuser pour fabriquer ces programmations-là. C'est sûr que dans les dernières années, on a eu quand même pas mal de défis. L'inflation est toujours là, mais on a réduit un tout petit peu les voiles pour pouvoir concentrer la qualité de la programmation.
Oui, c'est important pour vous d'avoir une grande part de spectacles gratuits.
Oui, puis les spectacles gratuits, c'est dans l'ADN des Franco, c'est aussi dans l'ADN du Festival de Jazz.
Mm-hmm.
C'est essentiel. S'il n'y avait plus le volet gratuit aux Franco, on ne s'appellerait plus les Franco, ce serait un festival bien différent. On a besoin, on a cette démocratisation de la culture francophone à cœur, c'est important pour nous de continuer à faire ça. C'est la promesse qu'on donne au public puis à nos partenaires.
Est-ce que
ce qui fait que c'est une grande fête.
Et je pensais aux gens qui vont vouloir se déplacer là en cette période de grève de la STM. Est-ce que ça vous oblige à repenser certains volets du festival ou vous faites confiance en fin de semaine tout va baigner là, étant donné que c'est le Grand Prix qu'on a décidé d'arrêter la grève pour au moins 3 jours.
Nos horaires fonctionnent quand même pas trop mal avec les débuts et fins des concerts. Je pense que après on est quand même au centre-ville de Montréal. Il y a des vélos, il y a c'est ça. Puis
ouais.
au niveau des horaires STM, je pense qu'on est pas si mal. ça peut pousser les gens à arriver un petit peu plus tôt sur le site. Il y a à manger sur le site, il y a à boire. Il y a des endroits où se mettre un petit peu au frais s'il fait chaud, se mettre à l'abri s'il pleut.
Vous êtes bien accueillant.
Tout à fait. Les portes sont ouvertes, oui. Comme on dit.
Et en terminant, est-ce que vous diriez que les Franco de Montréal, c'est un événement inclusif?
Oui, tout à fait. Il est inclusif à plusieurs niveaux. Il est inclusif quand on regarde techniquement pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, où on a les rampes d'accès, puis des plateformes qui sont dédiées, notamment sur la scène principale. Puis il est inclusif, évidemment, de façon plus culturelle. Et je pense que ça c'est l'un des travaux qu'on fait, qui nous est cher aussi, c'est de parler à tous les Montréalais. Montréal, c'est pas juste le centre-ville, c'est plein de quartiers, c'est plein de communautés qui, on l'espère, peuvent se retrouver dans les propositions qu'on fait sur les scènes. Quand on présente un Tiken Jaffa Kodi, quand on présente un Gims, des artistes comme ça, ou même des Shrees, puis des Lost, on vient parler à certaines communautés, puis on les invite à venir se sentir chez eux, chez nous.
Les 36e Franco de Montréal se déroulent du 13 au 21 juin. Franco-Montréal.com pour avoir toutes les informations. J'en parlais avec Morin Oxyméry, directeur de la programmation. On va se laisser avec celui que vous en avez évoqué. Vous en avez parlé quand même de plusieurs artistes, là. Mais Philippe Catherine, on va se laisser avec la chanson « Sous mon bob ». Bonne Franco, Morin Oxyméry. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
À très bientôt. Merci à vous.
Au plaisir.
J'ai la cinquantaine, je distribue mes microbes pour les Cheng Zulu. Fou, fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, fou Gita, fou Droyer, fou Moincamp, fou Yanal, fou Tuna, fou Lardior. Fou Gates, brûle. Fou de vous, fou de nous, fou de toi, fou de moi, fou Gita, fou Droyer, fou Moincamp, fou Yanal, fou Tuna, fou Lardior.
Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve demain à compter de 9h30. Ici Hélène Denis. Bonne journée. Merci Mathieu.